Europe 1, il est 6h.
On est en colère, c'était notre bébé. On avait participé à créer cette entreprise, saboté qu'en fait. C'est vraiment une catastrophe.
Les secousses des suppressions de postes chez Air France et ses filiales Morlaix dans le Finistère pourraient voir un centre de maintenance entièrement disparaître, près de 300 emplois menacés. Sortir du tout jetable, est-ce possible? La ministre Brune Poirson demande aux entreprises de livraison de repas à domicile de faire des efforts pour diminuer les déchets. Nous avons trouvé une start-up qui a mis en place un système qui fonctionne. Des millions de billets de train à prix cassé, exceptionnel à cette période. Les vacances d'été, c'est demain. La SNCF fait tout pour tenter de remplir enfin ses trains. Ce n'est toujours pas reparti après le déconfinement.
5 millions de petits prix à moins de 49 euros. On est vraiment dans une politique incitative à ce que nos clients reviennent dans les trains.
Bonjour, Madame le maire. C'est le dossier de notre journal. Les Français ont élu un nombre inédit de femmes lors du dernier scrutin municipal dans la moitié des 10 plus grandes villes du pays. Mais aussi, et c'est encore plus nouveau, dans les petits villages.
Sur le tableau d'affichage de la mairie, le plus loin que l'on remonte, effectivement, il n'y a jamais eu de maire à femme. Ben oui, depuis 1792.
Et nous appellerons dans le journal une dirigeante d'association, membre du Haut Conseil à l'égalité. Et puis, ce duo qui souffle le chaud et l'effroi à l'Olympique de Marseille. Un homme d'affaires épaulé de Mourad Boudjella, l'ancien patron du rugby à Toulon. Ils disent vouloir racheter le club et l'actuelle direction fulmine.
Juste après le journal, pour la première fois depuis sa création en 1886, Petit Lu modifie son petit beurre. Et c'est pour remercier les soignants. L'invité inattendu à 6h20. 6h25, le pire et le meilleur des réseaux sociaux avec Paul Lassen. Il est 6h02 sur Europe 1. Très bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Jérôme Lacroix.
L'annonce devrait tomber officiellement demain. 7500 postes supprimés chez Air France d'ici 2 ans, on vous le disait dès hier. La filiale régionale Hop sera particulièrement impactée. 1025 postes concernés sur 2700.
Et ce matin, c'est l'inquiétude. À Morlaix, le centre de maintenance et d'entraînement finistérien devrait être l'un des plus touchés. 276 postes supprimés, plus d'un quart, dans une ville déjà hautement sinistrée et où l'industrie aéronautique a été florissante.
Reportage du correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest, François Coulon.
800 personnes travaillaient sur le site de Morlaix il y a 7 ans. Le centre de maintenance devrait être purement et simplement rayé de la carte d'ici à 2023. 276 suppressions de postes, un cataclysme dans une ville de 15 000 habitants dont le taux de chômage dépasse les 20%. Benoît, 33 ans d'ancienneté.
On est en colère, c'était notre bébé. On avait participé à créer cette entreprise, saboté qu'en fait. C'est vraiment une catastrophe. Ici, il y a des gens qui travaillent en famille. Il y a le mari et la femme, trop jeunes pour avoir des retraites, trop vieux pour trouver autre chose. Et puis dans le milieu ici, aéronautique, il n'y a rien. Obligé de partir. Les gens sont effondrés. Moralement, c'est pas facile à vivre. On fait notre travail de deuil entre nous. On va perdre quelque chose de gros. Une famille, c'est un déchirement.
Qu'est-ce qui vous met le plus en colère?
C'est pas cohérent. Si on prête de l'argent, c'est pour sauver, pas pour tuer.
On ne se laissera pas faire, clame le nouveau maire socialiste de Morlaix qui demande au Premier ministre un rendez-vous express et appelle à une mobilisation de tous les élus bretons pour sauver la plateforme. Morlaix, François Coulon, Europe 1.
Et du côté d'Airbus, la direction présente aujourd'hui en comité de groupe son plan de restructuration en France. 5000 postes menacés, 15000 dans le monde. Par ailleurs, la marque Fildar, toujours sur cette crise économique, Fildar, ancienne historique du textile dans le Nord, placée en procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Lille. Conséquence de la pandémie, Fildar emploie 233 personnes.
Europe 1, il est 6h04.
Des billets de train à prix cassé, les vacances d'été démarrent demain et la SNCF lance une opération commerciale inédite à cette période.
Pas de gaieté de cœur, hein. La compagnie a perdu 4 milliards d'euros depuis le début de la crise du Covid, dont la moitié à cause des lignes de TGV. Et depuis le déconfinement, elle peine à remplir ses trains. Explication sur cette opération avec Alain Krakowicz, directeur de voyage SNCF.
On a toujours fait des petits prix, mais là, on en fait deux fois plus. 5 millions de petits prix à moins de 49 euros, y compris sur des destinations très longues. Bah, pour nous, c'est indispensable parce que notre priorité, c'est de faire revenir les clients au train. Le rythme de réservation aujourd'hui est correct. Mais en fait, on a du retard. On a des trains qui ne sont pas encore pleins. On est en moyenne sur juillet à 50% de taux d'occupation de nos trains. Alors, ça monte à 80% le week-end. Hein. Mais on voit qu'on est encore sur des Français qui sont assez attentifs, puisqu'en août, on est encore qu'à 35%. On ne leur impose aucune contrainte, puisqu'ils peuvent réserver sans aucun risque. Même s'ils décident au dernier moment, ils peuvent encore annuler après sans frais. On est vraiment dans une politique incitative à ce que nos clients reviennent dans les trains.
Alain Krakowicz, directeur de voyage SNCF, joint pour Europe 1 par Mathieu Bock.
Comment sortir du tout jetable? Question centrale de notre société. Les entreprises de livraison de repas sont particulièrement concernées. La secrétaire d'État Brune Poirson les a reçues hier au ministère.
Ils utilisent beaucoup d'emballages, de couverts non recyclables. Elle leur demande de trouver des solutions d'ici octobre. Et l'une des pistes, c'est la consigne plastique, c'est-à-dire la possibilité pour vous, nous clients, de ramener les emballages plastiques après les repas.
Un principe déjà adopté par les dirigeants d'une petite start-up parisienne rencontrée par Justin Morin. Il nous explique que le système peut être appelé bientôt à se développer.
Recycler du tupperware, ça fait partie de la vie d'une ville. Une ville, elle ne peut pas produire que du déchet.
Au 108, la librairie-restaurant de Rosa Tanjaoui, il y a des livres à emporter que l'on peut accompagner d'un plat de gnocchi gratiné livré dans un tupperware en plastique consigné.
On va les voir, donc ils sont tous rangés derrière notre comptoir. L'idée, c'est que le client voit et comprenne que c'est un emballage réutilisable. Donc on prend une consigne de 2 euros qui fait que le client achète son emballage d'une certaine façon. S'il revient avec, on lui fait une ristourne. Et à ce moment-là, ça repart.
Elle tourne sur une centaine de boîtes par semaine, livrées et récupérées à vélo par Micha en contrat d'insertion chez Reconcile, qui les ramène ici, dans un lave-vaisselle géant. Autour des centaines de couvercles en plastique sont en train de sécher.
Voilà, c'est tout propre.
Sofiane Assain Teston, le président fondateur de Reconcile.
Aujourd'hui, on est encore petit, on va laver entre 1000 et 2000 contenants par semaine. On peut laver 10 000 contenants par jour, donc on a une grande marge. On n'est qu'au début. Après, il manque une chose, c'est l'argent pour amplifier le mouvement.
Les consignes peuvent être renvoyées jusqu'à 50 fois dans la trentaine de restaurants du réseau avant d'être recyclées.
Outre la percée des verts, c'est l'un des enseignements du second tour du scrutin municipal, un peu passé sous les radars, mais dont on tenait, nous, à vous parler ce matin. Nous y consacrons le dossier de ce journal. Le nombre de femmes élues dimanche dernier est en augmentation par rapport à 2014, le dernier scrutin.
On atteint même la parité dans les 10 plus grandes villes françaises. 5 seront dirigées par des femmes. Paris, Marseille, Nantes, Strasbourg et Lille, c'est inédit.
Épreuve d'un vent de changement, mais rappelons que la très grande majorité des maires restent des hommes. Vent de féminisation encourageant, mais il y a donc encore du travail, Simon Rubin.
Un tiers des maires des 20 plus grosses villes de France sont des femmes. C'est du jamais vu et c'est une première tendance forte. La deuxième tendance, c'est que cette progression, on la voit aussi dans les toutes petites communes comme Sabayan dans le Gers où Sandy Magnoa, qui est la première maire de l'histoire du village.
Sur le tableau d'affichage de la mairie, le plus loin que l'on remonte, effectivement, il n'y a jamais eu de maire femme. Ben oui, depuis 1792. Je trouve que c'est bien par rapport au changement de mentalité du milieu rural, j'allais dire, qu'ils aient fait confiance à une femme dans un monde très masculin.
Mais on est encore très loin de l'égalité. Prenez le cas des intercommunalités, des communautés d'agglomération, où il y a très peu de femmes, remarque Anne Vigneault, nouvelle maire de Besançon.
C'est le maire qui représente la commune à l'intercommunalité. Ce qui fait que mécaniquement, vous retrouvez avec une très grande majorité d'hommes. Il arrive, c'est un maire nomme une adjointe pour qu'elle soit la représentante de la commune à l'agglomération. C'est exceptionnel.
Et c'est l'enjeu des jours à venir. On va voir si davantage de femmes prennent la tête de communautés d'agglomération notamment.
Bonjour Reine Lépinet.
Oui, bonjour.
Vous êtes la présidente, vice-présidente de Elles Aussi Association.
Non, co-présidente.
Co-présidente de Elles Aussi, c'est une association qui milite pour la place des femmes dans la vie publique et vous êtes aussi membre du Haut Conseil à l'égalité. Simplement, première question, à quoi est-ce que vous attribuez cette hausse de la féminisation de nos conseils municipaux?
Alors, si on parle déjà des grandes communes, enfin des plus grandes communes, les 10 plus grandes villes françaises, hein, où vous parlez de parité, moi je pense que si on regarde justement les femmes qui ont été enfin élues maires ou têtes de liste, parce que certaines ne sont pas encore totalement en poste, on va se rendre compte que ce sont des femmes déjà expérimentées, des femmes qui sont dans des partis, pas n'importe lesquels, souvent des partis écologistes ou partis socialistes. On voit que pour les Républicains, c'est un peu plus compliqué de trouver des femmes. Donc ce sont des femmes qui sont déjà dans la vie politique depuis un certain temps, avec une expérience. Ça, c'est pour les communes, les plus grandes villes françaises. Par contre, et puis j'ai entendu qu'on parlait de parité. Ben, c'est normal, parce que dans les plus grandes villes françaises, quelque part par là, il y a une loi. Par contre, pour les petites communes, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent parce que pour les communes toutes petites, jusqu'à 100 habitants, on se rencontre encore là où il y a 7 sièges à pourvoir. On se rencontre encore dans ces communes rurales que c'est encore très très difficile pour que les femmes prennent la tête de liste.
Alors justement, par contre, Pardonnez-moi, oui. Pardonnez-moi. Justement, pour rebondir sur ce que vous dites à l'instant, est-ce que selon vous, pour les plus petites communes, il faut une loi sur un mode de scrutin paritaire ?
Ah ben bien entendu, nous avons nous travaillé sur ce sujet-là et nous souhaitions bien évidemment un mode de scrutin de liste paritaire pour toutes les communes, y compris les petites communes. On nous a souvent rétorqué que ce serait pas possible, etc. Tout est possible, on se rend compte que dès qu'une loi est votée, eh bien la parité arrive. Par contre, ça ne garantit pas forcément, bien évidemment, que des femmes s'engagent tête de liste. Là, c'est encore un travail à faire. Alors, on parlait de mentalité dans votre reportage, et bien sûr qu'il y a quelque chose à faire au niveau des mentalités. Il faut essayer de sensibiliser d'abord les femmes à s'engager, et puis les hommes à accepter cet engagement, parce que dans les communes rurales, il y a encore des freins, bien évidemment. Mais s'il y a des progrès, on ne va pas nier les progrès. Forcément, il y a des progrès, et nous en sommes heureux.
Et nous les constatons ce matin. Merci, Reine Lépinet, vice-présidente de Elles Aussi, co-présidente, pardonnez-moi, de Elles Aussi, je vais y arriver. Cette association, donc, je le rappelle, qui milite pour la place des femmes dans la vie publique. Merci d'avoir été l'invité du journal de 6 heures d'Europe 1.
À venir dans ce journal, nouvel épisode dans l'affaire des pressions présumées dans la procédure de l'affaire Fillon. Aujourd'hui, la procureure générale de Paris est entendue par la commission d'enquête.
Et puis l'Olympique de Marseille, racheté ou pas racheté ?
Mais d'abord, Didier Raoult, soupçonné de parjure par le directeur général des hôpitaux de Paris. Martin Hirsch a écrit au président de l'Assemblée nationale. Selon lui, certains propos tenus par le scientifique marseillais lors de son audition par la commission d'enquête sur le Covid semblent s'apparenter à un faux témoignage, Didier Raoult, témoigné sous serment.
Martin Hirsch conteste notamment une comparaison entre le taux de mortalité des malades du Covid entre Paris et Marseille qui mettrait gravement en cause la PHP.
Un quatrième ex-ministre de la Santé face aux députés de cette commission d'enquête sur la gestion du Covid, aujourd'hui Xavier Bertrand. Hier, audition de Marisol Touraine et Roselyne Bachelot, elles n'ont pas voulu accabler le gouvernement.
Roselyne Bachelot a en revanche raillé les médecins qui se disaient en manque de masques et de blouses au début de la crise. Elle dénonce une attitude d'infantilisation et une tendance à se défausser sur le gouvernement.
Roselyne Bachelot ferait mieux de se taire plutôt que de faire le clown, réagit Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France. Et à propos des masques, le gouvernement demande aux entreprises de prévoir 10 semaines de stock pour ses salariés en cas de deuxième vague.
La commission d'enquête sur l'indépendance de la justice doit entendre ce matin la procureure générale de Paris. La parole de Catherine Chanrenaud est très attendue, en pleine polémique sur les pressions dont l'accuse le parquet national financier dans l'affaire Fillon.
Catherine Chanrenaud qui répondra notamment aux questions du député insoumis Hugo Bernalicis qui préside cette commission et qui attend des éclaircissements sur les liens entre parquet et gouvernement, et pas seulement dans cette affaire.
La question, c'est à quoi servent les informations qui remontent ? À quoi ont-elles pu servir ? Pourquoi a-t-elle demandé un niveau de détail aussi précis dans l'affaire Fillon ? Pourquoi a-t-elle insisté dans cette enquête, vous savez, sur Alexis Kohler, qui a été lancée sans suite, suite à l'intervention de la procureure générale, pour désigner une avocate générale sous sa responsabilité ? Voilà, c'est toutes ces questions qui se posent de la pratique d'un parquet général. Nous sommes une commission d'enquête et nous n'avons que le pouvoir de poser des questions et d'espérer les réponses. Ça fait partie des difficultés. Bon, on peut pousser notre interlocuteur dans ces retranchements. Mais ce qui nous intéresse, c'est de mettre la lumière sur ces pratiques et peut-être d'en finir avec les remontées d'informations dans les affaires individuelles, parce que sinon, il peut y avoir des soupçons d'instrumentalisation de la justice et peut-être que même que dans certains cas, ce ne sont pas juste des soupçons, même si nous n'avons pas d'éléments de preuve.
Aux États-Unis, on se prépare à un week-end de fête nationale bien particulier. Une partie du pays sera sous cloche face à une épidémie galopante. Plus de 50 000 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures.
La Californie est particulièrement touchée. Restaurants, bars, cinémas, musées sont à nouveau fermés au moins pour 3 semaines à Los Angeles, annonce le gouverneur. Fermetures aussi de certaines plages de Floride. Et puis en Russie, un référendum valide à 77% une nouvelle législation autorisant Vladimir Poutine à briguer 2 mandats présidentiels supplémentaires, soit jusqu'en 2036, l'année de ses 84 ans. Référendum qualifié d'énorme mensonge par l'opposition.
Europe 1, il est 6h14.
Et que se passe-t-il à l'OM ? Le club va-t-il être vendu, racheté ? Un drôle de micmac se joue en ce moment autour du club de foot. Un homme d'affaires franco-tunisien affirme travailler à un rachat, épaulé notamment par Mourad Boudjelal, ancien patron du club de rugby de Toulon.
Et le duo agace, mais alors profondément, les dirigeants actuels, Jean-François Pérez.
Entre l'OM et lui, assure-t-il, c'est une longue histoire. Mohamed Ayachi Ajroudi, 68 ans, s'avance donc avec la confiance d'un candidat légitime. Il aurait d'ailleurs été 2 fois en contact par le passé pour entrer dans le capital du club en 1991, puis 2000, ce que personne n'avait relevé à l'époque. Interrogé sur le refus catégorique de Franck McCourt de vendre l'OM jusqu'à présent, le franco-tunisien persiste. Tout est à vendre, tout est à acheter. Un volontarisme appuyé par des mots et des intentions, mais pas encore par des chiffres. Le moment, dit-il, n'est pas venu. Deux banques d'affaires peaufinent ce plan d'attaque qui sera avant tout méditerranéen, car au-delà du football, Mohamed Ajroudi parle humanitaire, social, économique. Toutes les religions du bassin doivent être représentées au centre de formation, l'OM étant croisade pour la paix, conclut-il, lyrique et un brin décalé. Pendant ce temps, Mourad Boudjelal a rencontré les clubs de supporters, moment convivial mais assez évasif selon un participant. Cette drôle de partie d'échecs qui passionne Marseille n'a peut-être pas encore livré tous ses secrets.
Jean-François Pérez.
Et à 7h40, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, Christophe Boucher, sera mon invité tout à l'heure. On va essayer de comprendre ce qui se passe sur la Canebière. J'imagine les supporters marseillais, évidemment, qui suivent ça avec passion. Plus fort que les municipales, plus fort que Didier Raoult. Évidemment, il reste l'Olympique de Marseille. Merci Jérôme Lacroix, c'était le journal de 6h. Il est 6h15.
Europe 1. La matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard, votre invité dans un instant.
Mon invité inattendu, on va parler du petit Lu, le petit beurre nantais qui, pour la première fois de son existence, va changer le petit texte. Vous savez, il y a tout simplement écrit Lu, petit beurre Nantes. Cette fois, ce sera un hommage aux soignants. A tout de suite.
Europe 1, il est 6h17 et c'est l'heure de l'invité inattendu tous les matins. Un sujet de l'actualité et une voix que l'on n'attend pas pour en parler sur Europe 1.
En plein Ségur de la santé, la reconnaissance des soignants, toujours ce matin sur Europe 1. Nous avons été nombreux pendant le confinement, bien sûr, à applaudir tous les soirs à 20h à notre fenêtre. Nous avons rendu hommage aux blouses blanches. Depuis la fin du confinement, ces hommages se poursuivent. Ils ont un peu changé de forme. Certaines marques aussi se sont mises au diapason. C'est le cas de la marque de biscuits Lu, qui a sorti un petit beurre en hommage aux soignants.
Et pour en parler, votre invité inattendu, Mathieu Béliard, c'est le patron de la marque Lu, Mathias Dohn, directeur général France de Mondelez International.
Bonjour Mathias Dohn.
Bonjour.
Alors merci d'être en direct avec nous ce matin. Il suffit d'entendre les pubs, hein, en ce moment, les marques ne manquent pas de saluer l'effort des personnels hospitaliers, des personnels en première ligne pendant le confinement, au plus fort de la crise. Mais vous, si on vous appelle, c'est parce que c'est parfaitement inédit pour que nos auditeurs comprennent bien. Est-ce que vous voulez bien nous décrire déjà ce petit beurre hommage ?
Alors oui, en fait, vous connaissez et tout le monde connaît le véritable petit beurre, qui est un biscuit qui existe depuis 1886. En fait, ce biscuit n'a jamais changé depuis cette époque de 1886. Et nos équipes de l'usine de Life Foissière, qui se situe à côté de Nantes, ont décidé pour rendre hommage et surtout pour dire un énorme merci au personnel soignant des alentours, en fait, de l'usine, ont décidé de faire une série limitée où ils ont enlevé l'inscription historique qui est sur le petit beurre, puisque en général, il est écrit « Lu, petit beurre, Nantes » sur trois lignes. Ils ont décidé d'enlever cette inscription pour la remplacer simplement par l'inscription « Merci beaucoup ».
Avec un cœur.
Et avec un cœur, absolument. Et le but pour eux est de remettre en fait cette production, puisqu'ils ont produit plus de 10 000 paquets, à la Croix-Rouge, qui va aller distribuer, et c'est en train de se faire en ce moment, distribuer gratuitement, évidemment, ces paquets de biscuits pour les... simplement pour les remercier.
Alors l'avantage, c'est qu'on parle d'un produit que tous nos auditeurs vont connaître, on peut se l'imaginer facilement, on voit ce qu'il y a écrit d'ordinaire, et on mesure, du coup, ça n'était jamais arrivé depuis 1886. L'idée, vous le dites, hein, elle est venue de vos salariés d'une usine de Nantes. Hein.
Absolument, c'est leur initiative, c'est eux qui ont pris en main ce projet, effectivement, on s'est dit, oui, allons-y, faisons-le, c'est ô combien important de savoir changer et puis surtout de dire ce superbe merci parce que ben voilà, c'est incroyable ce que tous les personnels soignants ont fait pendant cette période.
Alors, pour le reste, rien n'a été changé. Le petit beurre, il est emblématique aussi pour ses 52 dentelles et 24 poinçons. Alors autant le texte, je l'avais, autant je ne savais pas que ça n'avait pas bougé non plus. 52 dentelles autour du biscuit, 24 poinçons dessus. Là aussi, il y a un sens.
Alors oui, en fait, quand Louis Lefebvre Utile a créé ce biscuit en 1886, en fait, il a voulu écrire une sorte d'allégorie du temps. Et cette allégorie du temps, en fait, est représentée par ces quatre petites oreilles qui sont les quatre saisons, les 52 petites dentelles que vous avez tout autour du biscuit qui sont les 52 semaines et puis les 24 heures qui sont ces 24 poinçons que vous avez sur le biscuit. Tout simplement pour dire un véritable petit beurre, en fait, vous pouvez le consommer à n'importe quelle heure de la journée, n'importe quelle semaine de l'année et à n'importe quelle saison.
Je suis sûr que certains au petit déjeuner là sont en train de regarder un petit beurre et se dire « Ah mais j'avais jamais remarqué » en train de compter les poinçons. Là, je voulais ce petit rappel sur un produit, encore une fois, que tout le monde connaît. Mais on va aussi parler de votre entreprise, Mondelez, leader mondial du biscuit. Hein. La marque LU, on vient d'en parler. Vous avez aussi Milka, Hollywood, Granola, par exemple. Pendant le confinement, j'en profite puisque je vous tiens, vous avez été à l'origine d'un vrai petit buzz en relançant les biscuits Figolu. Vous avez été surpris de voir que Figolu était un sujet d'amusement, de buzz, même un événement sur Twitter.
Je dois vous dire qu'on a été assez dépassés par ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, Figolu, c'est une jolie histoire. On a eu, en 2015, on a arrêté ce biscuit. Et en fait, on a eu droit à une pétition signée par plus de 10 000 signataires qui ont demandé le retour de Figolu. On a décidé de faire revenir le Figolu et de le faire revenir. Il était programmé d'être revenu en avril. Et puis, en fait, on a annoncé en avril. Moi, j'ai annoncé ça sur Twitter simplement en disant, Figolu revient. Et là, je dois dire que ça a été un buzz assez incroyable, assez inattendu, un clin d'œil pendant cette période de confinement. Je dois vous dire qu'on a du mal à suivre la demande parce que Figolu, en ce moment, on a même du mal à approvisionner tout le monde, tellement la demande est forte.
Alors, un mot justement sur le marché plus généralement, Mathias Daune, le confinement chez vous, ça s'est traduit, alors on le comprend avec le petit beurre, avec le Figolu, ça s'est traduit par une hausse du grignotage, par une hausse de la consommation ?
Alors, en fait, les produits alimentaires en général ont connu entre mi-mars et mi-avril une croissance de 15%. C'est du jamais vu, puisque évidemment les restaurants étaient fermés, tout le monde était chez soi, en famille. Donc il y a eu une première vague d'achat qui était une espèce d'achat entre guillemets un peu panique, stockage, où les gens sont allés acheter des produits de première nécessité. Et puis quand le confinement s'est plus ou moins installé, en fait, les gens se sont du coup recentrés vers des choses essentielles, des marques essentielles. On parlait du petit beurre. Le petit beurre est en croissance de plus de 10% aujourd'hui, depuis le début de l'année. Donc, il y a comme ça, en fait, des produits qui rassurent les Français et sur lesquels ils se sont recentrés.
Parce qu'ils ont grignoté ou parce qu'ils ont fait du stock ?
Alors, vous savez, les petits beurres, ça se stocke pas. Hein. Je vous invite à en mettre 3 paquets dans votre placard. Vous verrez que les 3 paquets vont fondre très, très vite. Les Français ont eu besoin de se faire plaisir. Vous savez, quand vous avez des périodes de crise, de stress comme ça, on se rattache à des choses simples, des petits plaisirs simples. Et ces marques et ces produits en font partie.
Oui, parce que vous avez des produits salés aussi. Vous avez des produits apéritifs. Vous avez du salé aussi. C'est pour ça que je vous posais la question.
On a la marque Belin et je dois vous dire que les Français sont restés français pendant cette période puisque l'apéritif n'a absolument pas cessé, bien au contraire. Et on l'a vu dans les ventes de Monaco Belin, par exemple, qui est le produit star de l'apéritif.
Moitié interview insolite, moitié interview écho. Je voulais vous remercier sincèrement d'abord pour l'initiative de vos salariés, hein, puisque c'était l'origine de notre appel.
Merci
petit beurre nantais qui n'a jamais changé de façade depuis 1886. L'hommage aux soignants et ces 10 000 exemplaires qui leur seront distribués. Puis ensuite, la consommation des Français pendant ce confinement. Merci beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu de l'invité inattendu. Mathias Daune à la tête de Mondelez International, le numéro 1 du biscuit dans le monde. Merci beaucoup.
Merci.
Il est
bonne journée.
4.
Europe 1. Le meilleur et le pire des réseaux sociaux dans un instant avec Paul Lassen et Vente Panique sur Twitter. Le Crous tarde à donner des réponses pour les logements étudiants. A tout de suite. 6h25 sur Europe 1, Mathieu Béliard.
À 6h25, tous les matins, nous retrouvons Paul Lassen, le meilleur et le pire des réseaux sociaux. Bonjour Paul.
Bonjour Mathieu.
Et ce mardi, les étudiants devaient recevoir des réponses du Crous pour les attributions de logement. Ce matin, Paul, ils attendent toujours.
Oui, beaucoup d'étudiants étaient dans l'attente depuis 3 jours. Une longue, très longue attente qui rappelle, par exemple, des souvenirs à Ingrid. Le Crous, en fait, c'est comme les livreurs. Ils te donnent une fourchette, par exemple, entre 8h et 18h. Mais le Crous, c'est pire, entre le 30 juin et un jour, peut-être. Roby imagine le retour d'une requête envoyée au Crous. Bonjour, votre message a bien été lu et ignoré avec succès. Pas de réponse donc, et des listes d'attente interminables pour tous. C'est aussi de l'inquiétude pour le futur, écrit Hugo sur Twitter. Ma requête est en attente de traitement. Oui, bah accéléré, j'ai hâte de savoir si je finis SDF ou pas. Marine, elle, est plus terre à terre dans ses préoccupations. Moi, je suis juste impatiente de savoir si je mettrai de la sauce tomate dans mes pâtes ou pas l'année prochaine. D'autres veulent, malgré tout, garder espoir. En vrai, quand je vois que personne n'a eu de réponse pour ses vœux, j'ai grave espoir que ce soit un bug. Non, c'est faux, je suis en PLS, écrit un internaute.
On imagine cette attente qui doit être interminable. Par contre, certains chanceux ont eu, eux, des réponses.
Oui, alors certains ont eu des réponses, mais de là à parler de chanceux, on en est loin. Kay, par exemple, se demande « Pourquoi mettre des résidences étudiantes à disposition si tout le monde est refusé ? À quoi ça sert sérieusement ?» Des résultats décourageants qui ne facilitent pas la tâche des étudiants, estime un internaute. On se plaint que les jeunes adultes ne font pas d'études, mais on ne peut pas se permettre de prendre un appartement à 800 euros par mois ou faire des allers-retours en voiture avec l'essence et le péage. Ryan est un peu plus philosophe suite au refus que lui a reçu. Se faire recaler pour le studio le plus claqué, c'est comme se faire recaler par la fille la plus moche de la soirée. Mais bon, moi, heureusement, j'ai la santé, à l'inverse d'Alexia qui, elle, perd patience. C'est une blague, mes deux vœux sont non satisfaits. Je dors dans une tente l'année prochaine, où ça se passe comment ?
Et justement, Alexia n'est pas la seule à penser à son futur logement en cas de refus.
Oui, et avec beaucoup d'ironie, certains comme Christelle partagent leur bon plan. Profitez du matelas gonflable à 5 euros dans les magasins Action. Pour ceux qui sont refusés, vous verrez, il est très confortable. Dany a lui prévu plusieurs solutions de secours. Pendant les 50 heures d'attente, j'ai fait une petite liste des logements hors crous que je peux me permettre pour septembre. Une tente quechua, un sac de couchage et un pont pour dormir dessous. Cet autre internaute s'imagine, lui, un bel abri pour l'hiver. C'est ironique, évidemment. Vu que le crous m'a viré, mon futur logement, ce sera le métro, au moins en hiver. Il y fait chaud. Enfin, SN, c'est son pseudo sur Twitter, profite du réseau social pour passer une petite annonce.
Ouais, c'est malin.
Du coup, j'en profite, vu que j'ai zéro logement crous, je cherche une coloc entre filles sur Paris. Si quelqu'un est intéressé, mon école est dans le 15e et je suis alternante. Avis à nos auditeurs parisiens ce matin.
C'est peut-être la solution finalement de poster son annonce en réponse. Merci Paul Lassen, le pire et le meilleur des réseaux sociaux, leur utilité aussi parfois. C'est tous les matins à 6h25 sur Europe 1, il est 6h28. Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Ouais, on fait le ménage. Après les orages, vous savez que ces orages ont été très violents hier sur une bonne partie sud de la France. Alors, après les orages, eh bien, on donne des coups de balai et il faut nettoyer le ciel. Alors en ce moment, c'est ce qui se passe, avec des averses qui vont éclater aujourd'hui sur la région lyonnaise, la vallée de la Loire, la Champagne-Ardenne, la région parisienne. Ce sont des averses ponctuelles. Quelques ondées, des pluies un peu plus faibles sur le sud-ouest, le massif central, la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace et le Midi-Pyrénées. Et puis des orages, d'autres vont arriver. Cela, a priori, devrait être moins violent que ceux d'hier, région Rhône-Alpes. C'est là qu'ils vont éclater sur les Alpes et sur peut-être le Jura. Voilà pour l'essentiel, en vous disant, comme je l'indiquais tout à l'heure, que tous ceux d'entre vous qui habitent près des côtes, quelles qu'elles soient, hein, à travers la France, près des côtes, nous aurons des bonnes chances de soleil. Les températures, entre 20 et 34 degrés. 20 degrés La Rochelle, 21 Rennes, Nantes, Lille, Niort, Bordeaux-Bourges, 22, Paris 24, 23, comme à Épinal, comme à Toulouse, 25 à Clermont-Ferrand et Dijon, 28 à Lyon, et puis deux poches d'air chaud, Marseille 32, 34 à l'Est, 32-34 dans ce secteur. Voilà, demain vendredi, ce sera un beau temps que j'appellerai nuageux, donc du beau temps avec des nuages. Samedi, dimanche, ce sont les régions très proches de la Manche qui seront pénalisées. Ensuite, c'est un dégradé de plus en plus ensoleillé en allant vers le sud. Et puis la semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ce sera du grand beau temps.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Vous êtes sur Europe 1. François Geffrier est avec nous. Bonjour François.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal, il est 6h30.
Je ne sais pas si les enseignants sont vraiment contents, puisque eux aussi demandaient la suppression des premières évaluations de première.
Encore du nouveau pour le bac l'année prochaine. La réforme venait d'être adoptée. Les épreuves de contrôle continu vont rechanger de nom et de formule. La très délicate organisation du procès des attentats de janvier 2015. De nombreux avocats et partis civils, mais des conditions sanitaires qui compliquent l'accès au tribunal. Et puis, vous en rêviez peut-être, une entreprise l'a fait, une semaine de 32 heures sur 4 jours. Si je compte bien, ça fait 3 jours de week-end chaque semaine.
Question de droit et réponse de l'avocat d'Europe 1. Plan canicule et contrainte Covid, les obligations des employeurs. Roland Pérez après ce journal. À 6h40, le zéro déchet, le gouvernement qui attend des propositions concrètes. Julia Bijawi, cofondatrice et co-directrice de Frichti, qui livre des repas justement. Et puis, nous vous emmenons aux États-Unis, en Espagne et en Israël dans la revue de presse internationale avant 7h. 6h31 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Si vous avez des lycéens à la maison, ils ont dû transpirer depuis un an à l'évocation même de ce sigle E3C, épreuve commune de contrôle continu. C'était la nouvelle formule du bac, eh bien ça va rechanger.
Un examen réparti sur les classes de première et de terminale qui va être modifié dès la rentrée prochaine. Les détails avec Virginie Salmen.
D'abord, elle change de nom, terminer ce terme barbare 2-3-C. Désormais, elles s'appelleront sobrement épreuves communes, histoire de faire retomber la pression de l'examen pour les lycéens. Il y avait deux sessions d'épreuves pour les élèves de première, l'une en janvier, l'autre en mai. Mais les professeurs estimaient que faire passer des épreuves dès le mois de janvier, c'était plus du bachotage qu'autre chose et qu'ils avaient moins le temps de faire de vrais cours où on apprend. À partir de l'an prochain, il n'y aura plus de date imposée. Le calendrier sera fixé dans chaque lycée. Mais est-ce que cette souplesse suffira à calmer les profs qui ont participé au blocage de lycée l'an dernier? Pas sûr à entendre Lysiane Gervais, représentante des proviseurs du SNPDEN.
Je ne sais pas si les enseignants sont vraiment contents puisque eux aussi demandaient la suppression des premières évaluations de première pour qu'il y ait un vrai apprentissage et à la fin de l'année, on pouvait évaluer.
Les proviseurs, eux aussi, sont pour une suppression pure et simple de ces épreuves en cours d'année. Ils préféreraient garder un seul examen final pour le bac.
Charlie Hebdo, Montrouge, l'hypercachère de la porte de Vincennes, 5 ans après les attentats qui avaient fait 17 morts en janvier 2015. Le procès doit avoir lieu à la rentrée. 12 personnes sont renvoyées devant les assises spécialement constituées pour le terrorisme.
Mais l'organisation est un casse-tête. Une réunion sur les questions de procédure se tient cet après-midi, Salomé Legrand, avec tous les avocats des deux côtés et la présidence du tribunal.
Avec les impératifs sanitaires, c'est toute la logistique déjà chaotique du procès qui est impactée. Distanciation sociale oblige, les salles d'audience voient leur capacité réduite de moitié. Une grande partie du deuxième étage du nouveau palais de justice sera réservée au procès Charlie Hebdo avec tout un casse-tête sur la circulation du public. Mais même en ajoutant une troisième salle dédiée à la retransmission, ça coince. Du côté de la défense, 22 places ont été réservées pour les avocats, trop peu disent-ils. Certains sont deux pour un accusé, mais surtout, la longueur du procès, 10 semaines, nécessite de pouvoir faire venir des collaborateurs. Pas de place réservée non plus pour les familles des accusés, ça n'est même pas envisagé. Mais ce qui hérisse le plus les avocats des deux côtés du prétoire reste l'idée d'avoir à passer des détecteurs de métaux. Ils ne peuvent pas commencer l'audience sans nous, on attendra de l'autre côté, menace l'un d'eux. Mais d'après nos informations, des aménagements sur ce point pourraient se négocier dans les jours qui viennent.
En matière de justice, c'est aujourd'hui que Catherine Champrenault est auditionnée par la commission d'enquête sur l'indépendance de la justice. Elle, qui est procureure générale de Paris, a été mise en cause par son ancienne subordonnée Éliane Houlet, qui dit avoir subi des pressions en 2017 pendant la campagne présidentielle quand elle enquêtait sur les soupçons d'emploi fictif. Ceci ont valu à François Fillon et son épouse lundi dernier une condamnation.
Cela fait plus d'un mois qu'on en parle et au sein du gouvernement, les ministres commencent à trouver le temps long. Le remaniement se fait attendre.
Oui, une source à l'Élysée évoque un changement d'équipe avant mercredi de la semaine prochaine. D'ici là, Jérémy Baudot, l'impatience pointe.
En apparence, tout est normal. Un influent député qui enchaîne les réunions entre l'Élysée et Matignon le confie. Rien ne laisse penser qu'il y aura bientôt un remaniement. Et pourtant, un nouveau gouvernement est annoncé avant mercredi prochain et cette attente n'est pas sans conséquence. À la santé, l'activité est forte. On est en pleine négociation du Ségur. Mais un conseiller s'alarme. En cas de démission du gouvernement, comment on fait si on n'a pas le ministre pour discuter avec les soignants? Dans un autre ministère, autre ambiance. L'activité est quasiment à l'arrêt. On gère les affaires courantes, on suit les réformes, mais aucun nouveau projet n'est lancé. Il faut ranger ses dossiers, que tout soit clair pour son éventuel successeur, explique un membre de cabinet. Dans ces périodes, les rumeurs vont bon train, des listes de noms circulent. Franchement, c'est pénible, juge une collaboratrice qui ne sait pas si son ministre est reconduit. En réalité, personne n'en sait rien. Le président est le seul à décider, tranche un proche du Premier ministre. À Matignon, on se prépare d'ailleurs à l'éventualité d'un départ. Certains y avaient déjà fait des cartons au moment des gilets jaunes et n'ont pas toujours eu le temps de les défaire.
Vous vous souvenez du glyphosate et autres produits chimiques qu'on avait retrouvés dans plusieurs modèles de couches pour bébés. Il y a du mieux, selon une enquête de la répression des fraudes que dévoile ce matin le journal Le Parisien. Amélioration très nette sur une trentaine de modèles testés. Aucune couche n'a de substances toxiques au-dessus des seuils recommandés par l'agence sanitaire ANSES.
Europe 1, il est 6h35.
Et c'est donc vrai, une entreprise va réellement passer aux 32 heures hebdomadaires, et ce sur 4 jours.
Oui, le tout sans diminution de salaire et avec en plus à la clé des embauches. Mais alors, quelle est cette entreprise où il faut postuler de toute urgence? Eh bien, elle s'appelle LDLC, elle vend de l'informatique en ligne, basée à Lyon, et elle emploie 900 salariés à travers la France. Des salariés assez chanceux, il faut le dire. Reportage de Jean-Luc Bougeon.
Vivement qu'on signe cet accord, s'est exclamée la déléguée CGT lorsqu'elle a appris la nouvelle. C'était il y a quelques jours, quand Laurent de la Clergerie, PDG de LDLC, a dévoilé son projet, instaurer pour ses 900 salariés la semaine de 32 heures payée 35, le tout sur 4 jours.
J'ai plaisanté en l'expliquant aux salariés en disant « je vous garantis, j'avais pris aucune substance illicite, j'étais dans mon état normal ». En fait, je pense qu'au final, je vais m'y retrouver, que la boîte va s'y retrouver, parce que les gens vont être heureux. Et comme ils vont être bien, ils vont être plus efficaces. Si un salarié est heureux, ça s'entend. Si un salarié est heureux, il va le transmettre au client. Si le client sent que la boîte se sent bien, il sera plus à même de venir chez nous.
Une manière pour ce patron de concrétiser sa philosophie du bien-être au travail, mais s'il peut le faire, c'est aussi parce que LDLC se porte bien, avec des bénéfices de 16 millions cette année. Les salariés comme Kevin sont aux anges.
C'est vrai que quand on le dit dans notre entourage, ça fait un petit peu sauter de la chaise. Ça montre une vraie confiance de la part des dirigeants envers les salariés, en notre autonomie à faire notre travail. Socialement, c'est un gros gain pour nous.
Cerise sur le gâteau, la société devrait embaucher pour compenser cette baisse du temps de travail plusieurs dizaines de personnes. Une situation incroyable, surtout en ces temps de crise économique. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Encore des nouvelles préoccupantes venues des États-Unis. Plus de 50 000 cas de contamination au Covid-19 recensés en 24 heures. Nouveau record, le maire de New York annonce que les restaurants ne rouvriront pas finalement le 6 juillet comme c'était prévu. La Californie fait machine arrière aussi sur son déconfinement.
Et la situation est meilleure en Europe. À partir d'aujourd'hui, la France et les autres États membres de l'Union rouvrent leurs frontières à 14 pays.
14 pays dont le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, trois pays où beaucoup de Français se rendent chaque été pour retrouver leur famille. Mais attention, c'est à chaque pays de décider s'il autorise ou non les Français à venir. La réciprocité et cette situation est loin d'être claire pour ces futurs vacanciers que Romain Oquet a interrogé.
Un été sans Maroc, j'imagine pas quoi. Je veux dire que je vais pas pouvoir aller voir ma famille et mon deuxième pays, c'est un peu désespérant.
Pour la première fois depuis 30 ans, Rachid ne verra peut-être pas le Maroc, le pays où il retrouve ses parents chaque été. Toujours aucune annonce du royaume sur la réouverture de ses frontières, probablement pas avant mi-juillet.
Je me renseigne tous les jours. C'est un peu difficile d'y voir clair dans la mesure où, en fait, la seule chose que j'ai vue, c'est que les billets d'avion étaient disponibles en août. Mais après, est-ce qu'on pourra prendre l'avion ? Il n'y a rien de sûr, donc on attend.
Pour l'Algérie, en revanche, les autorités ont été claires. Les frontières resteront fermées jusqu'à la fin de la pandémie. Là-bas, les foyers de contamination se multiplient. Alors Malika a dû dire adieu à ses 3 semaines de vacances en famille et aux 1500 euros déjà dépensés pour le ferry.
Ce sont les économies de toute une année. C'est le voyage qu'on prépare toute la famille ensemble. C'est un budget. Hein, donc maintenant, on ne sait pas encore si on va avoir des vacances ou pas finalement cette année.
Pour l'instant, les vacances ne sont possibles qu'en Tunisie, mais pour y entrer, les contraintes sont lourdes. Les voyageurs doivent présenter un test négatif effectué avant le départ et s'autoconfiner au moins 6 jours dès leur arrivée.
Les précisions de Romain Oquet pour Europe 1.
Merci François Geffrier. Il est 6h39. Bon réveil à tous.
Une question de droit et la réponse de notre expert juridique, l'avocat d'Europe 1, Roland Pérez.
Bonjour Roland.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Une circulaire interministérielle qui date d'à peine quelques semaines a reconduit pour l'été 2020 le plan national canicule institué en 2018 que les employeurs doivent mettre en œuvre à l'égard des salariés. Si ce n'est que la version 2020 doit aussi tenir compte de l'impact du Covid. Pas simple donc pour les entreprises. Détaillez-nous Roland, l'aménagement du dispositif prévu cette année.
Oui, c'est le Haut Conseil de Santé publique qui a revu la copie du dispositif anti-canicule qui a dû s'adapter aux conséquences du Covid que les entreprises doivent à la lettre respecter pour cet été 2020 à l'égard des salariés au nom de la fameuse obligation de sécurité mise à leur charge par le Code du travail. Alors, si les règles d'hygiène et de prévention de la transmission du Covid-19 et notamment la distanciation physique, le lavage des mains, le port d'un masque restent de rigueur, il est toutefois convenu que pendant les fortes chaleurs, ce même port du masque peut devenir un problème et en ce cas, il faut le remplacer par des visières et surtout continuer à garder ses distances. Il faudra aussi, pour améliorer le dispositif canicule 2020 spécial Covid, aménager les horaires de travail, augmenter la fréquence des pauses et leur durée, penser à aérer les locaux par une ventilation mécanique sans recyclage d'air si possible, ouvrir les fenêtres aux heures les moins chaudes, comme la nuit par exemple, et éviter, Mathieu, la climatisation ou la faire fonctionner à un faible débit. Ce qui est aussi fortement contre-indiqué, c'est l'utilisation de ventilateurs au plafond dans les espaces collectifs et même aussi d'ailleurs les ventilateurs individuels pour éviter que le virus puisse se balader dans les espaces clos. Enfin, il existe pour permettre aux entreprises de ne pas passer à côté de leurs obligations en la matière un numéro vert gratuit que je vais vous donner, Canicule Info Service 0800 06 66 66 0800 06 66 66.
Et si des salariés présentent plus de risques que d'autres face à la canicule, accentuée cette année par les risques d'exposition au Covid, que doit faire l'employeur ?
Alors, l'organisation du travail de ces salariés devra être ajustée en plaçant par exemple ces salariés en télétravail ou si ce n'est pas possible, s'assurer de leur hydratation, de la prise de pause, de pause et de rafraîchissement régulièrement ou encore en les faisant examiner par le médecin du travail qui pourra décider d'un arrêt d'activité si besoin.
Merci beaucoup Roland Pérez. Tous les matins, votre question de droit juste après le journal de 6h30 sur Europe 1. Il est 6h41.
Europe 1. La matinale d'Europe 1, Mathieu Bélière, la suite.
À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. On va parler de la poussée des Verts aux élections municipales, bien sûr, et de la tectonique des plaques à gauche. Autre question écologique très concrète, la problématique des déchets, du tout jetable, des plastiques à usage unique. Les plateformes de livraison de repas en première ligne, reçues, tensées même hier par la ministre Brune Poirson. Julia Bijaoui, co-directrice, co-fondatrice de Frishti, dans une minute sur Europe 1. A tout de suite.
Europe 1, il est 6h43, les acteurs de l'actualité en direct, votre invité Mathieu Béliard, Julia Bijaoui, cofondatrice et co-directrice de Frishti.
Bonjour Julia Bijaoui.
Bonjour.
Et merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. La problématique des emballages uniques, du tout jetable et bien sûr de la protection de l'environnement. Frishti, vous livrez des repas et des produits frais, je présente hein, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas, et avec d'autres entreprises de livraison alimentaire comme Uber Eats, Deliveroo ou Shishop, vous étiez convoqué au ministère de la Transition écologique hier avec la ministre Brune Poirson qui vous demande de formuler des propositions pour l'automne pour proposer des couverts réutilisables dès le 1er janvier prochain. Zéro déchet au 1er janvier, c'est possible ?
Alors, au 1er janvier, ce n'est pas possible, mais en revanche, effectivement, on est, nous, dans une démarche d'amélioration continue de cet enjeu. C'est vrai que l'usage voilà du packaging de manière générale est un enjeu central. Nous dans notre proposition de valeur, c'est de consommer de manière plus responsable de la fourche à l'assiette et donc évidemment que la dimension de packaging est au cœur de nos préoccupations depuis 5 ans.
Vous dites que ce n'est pas possible pour le 1er janvier, vous l'avez dit à la ministre hier.
Alors, c'est une longue démarche d'amélioration progressive. Donc, il est évidemment possible de travailler à un plan concret. Et la ministre nous a demandé de sortir avec des recommandations concrètes d'amélioration jusqu'en 2023, d'anticiper la législation. Mais il n'y a pas eu de demande d'être prêt le 1er janvier 2021. Et en revanche, nous, sur la problématique des couverts, c'est déjà quelque chose que nous avons traité, puisque nous ne proposons plus de couverts en plastique, mais des couverts en PLA, donc c'est de l'amidon de maïs, et ils sont proposés en option et de manière payante, ce qui a permis déjà de réduire leur utilisation par 5, et donc on encourage fortement l'utilisation de couverts personnels.
Oui, le meilleur recyclage, c'est encore de ne pas utiliser le produit. Si on a la possibilité de ne pas utiliser de couverts, parce qu'on en aurait déjà, pourquoi pas. Cela dit, la restauration rapide à consommer sur place, la vente à emporter, la livraison, quand on cumule ce secteur d'activité, ce sont des milliards de déchets d'emballage chaque année. Vous par exemple, chez Frishti, combien de repas est-ce que vous livrez tous les jours ?
Alors, on livre des milliers de repas tous les jours, et effectivement, il faut être vigilant de bout en bout de la chaîne. Il y a le packaging, il y a la livraison. Nous, on propose une flotte de livraison 100% verte, à vélo ou en scooter électrique uniquement. Et puis, il y a aussi tout l'amont. Quels sont les produits qu'on choisit? Comment est-ce qu'ils sont cultivés? Comment est-ce qu'ils sont cuisinés? Et donc, nous, on veille à une responsabilité vraiment écologique sur l'ensemble de notre chaîne. Et c'est pas juste le packaging, mais c'est évidemment une grande dimension qui en fait partie. On a déjà, il y a 18 mois, beaucoup amélioré notre packaging puisque aujourd'hui il est uniquement composé de matières recyclées et recyclables ou biodégradables et compostables. Donc ça a déjà été un gros progrès qui a été salué.
Il n'y a plus de plastique.
Alors il y a du plastique qui est recyclé et recyclable et surtout il y a une majorité de matières biosourcées comme de la bagasse de canne à sucre ou du PLA, c'est-à-dire de l'amidon de maïs comme je vous en parlais.
Ouais, alors ça, exactement. Quelle différence de coût ? Je voudrais qu'on aille un peu plus loin sur le plastique ensuite, mais ces aménagements, cette organisation que vous décrivez, ça représente quelle différence de coût sur un repas ?
Alors aujourd'hui, on a réussi à biosourcer des matières qui ne nous coûtent pas plus cher. On n'a pas dû réimpacter ce coût sur les clients ou sur notre entreprise. En revanche, ce qui coûte plus cher, effectivement, c'est les couverts dont je vous parlais. Et là, on a pu compenser cette augmentation puisque effectivement, on les facture quelques centimes, ce qui en fait, on permet et d'être plus responsable dans le sourcing et d'encourager les gens à ne pas surconsommer de couverts jetables.
Effectivement, si le client doit payer, peut-être qu'il est responsabilisé d'une certaine manière. Mais si, alors, j'entends aussi, Julia Bijaoui, ce que vous me dites, c'est important. Si j'enlève les couverts de la problématique, vous me dites, on peut le faire à coût constant.
Oui, absolument. En tout cas, sur ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire des matières beaucoup plus responsables et qui sont tout de même jetables. Après, la prochaine étape, effectivement, c'est d'aller étudier des solutions comme la consigne, qui là permet de ne tout simplement pas avoir de packaging et avoir un packaging qui est réacheminé, lavé, puis réutilisé. Et évidemment, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, ça reste une des solutions qu'on examine de très près. Après, il y a rien de simple dans ce genre de problématique. C'est-à-dire que on étudie vraiment précisément chaque solution puisque, par exemple, la consigne peut cacher des coûts écologiques qu'on n'anticipe pas forcément, à savoir la chaîne retour, le lavage. Donc, il faut vraiment bien mesurer ces choix.
Vous n'êtes pas favorable à la consigne parce qu'on sent bien que du côté du ministère, on pousse vers la consigne.
Absolument, et on y est très favorable. On examine juste son impact écologique au global, la faisabilité d'organiser cette chaîne qui doit aller jusqu'au client puis revenir et la possibilité de sa mise en place.
Sur la consigne, ouais. Je ne dis pas sur le reste parce que vous m'avez démontré qu'on pouvait faire mieux sans forcément que ça coûte plus cher. Mais sur la consigne, ce débat-là, ça fait des années qu'on a ce débat. Alors ça peut être pour la grande distribution, pour les bouteilles, pour le plastique, pour vous en l'occurrence. Vous êtes un modèle, je voyais un modèle qui est très urbain et c'est là qu'on trie le moins bien particulièrement. Alors pourquoi on n'avance pas plus vite sur cette problématique de consigne ?
Eh bien, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas encore d'acteurs qui permettent de proposer des solutions qui gèrent justement cette logistique. Donc, il faut l'inventer. Ou alors, il faut attendre que des petits acteurs qui existent aujourd'hui grandissent, perdent des partenariats avec eux pour les aider à grandir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sujet-là, l'industrie est franchement en retard. Nous, ça fait 5 ans qu'on étudie ce sujet. Déjà, pour sortir les innovations dont je vous ai parlé, ça a été extrêmement compliqué. Ça a été 1 an et demi de travail de trouver ces matières biosourcées qui permettent à la fois une conservation alimentaire parfaite, etc. Donc ça a été beaucoup de travail, tout simplement parce que l'industrie n'avait strictement rien à nous proposer et donc on a dû l'inventer avec eux. C'est un peu pareil sur la consigne. Il faut prendre le temps que des entreprises proposent ce genre de solution pour pouvoir faire des partenariats avec eux et tout simplement rendre la chose possible, ou alors le faire nous-mêmes, c'est-à-dire avec notre flotte de livraison, réorganiser les chaînes retour, le lavage, etc. Mais ça ne se met pas en place du jour au lendemain.
Il va falloir qu'on accélère à tous les niveaux. Hein. J'entends bien à tous les niveaux de la chaîne, je le comprends bien. Vous appelez les industriels et les entreprises à se responsabiliser aussi sur cette problématique de consigne. Et puis ensuite, sur le plastique, je voyais qu'on progresse vraiment, selon Citeo, l'organisme qui s'occupe du recyclage. On progresse vraiment sur le recyclage, mais par exemple sur le plastique, on n'en recycle encore que 29%. Merci Julia Bijaoui. On va poursuivre cette conversation ce matin. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour expliquer à la fois ce rendez-vous d'hier, votre démarche aujourd'hui, la cofondatrice et co-directrice de Frichti. Autour de la table hier, il y avait aussi l'ONG Zero Waste France qui milite pour du zéro déchet, pour sortir du déchet plastique, mais pas seulement le plastique. Nous serons avec eux à 8h30 tout à l'heure et avec vous, peut-être qu'ils ont des conseils à vous donner. Est-ce que vous essayez d'appliquer à la maison, je ne sais pas, avec le vrac par exemple, ou alors le débat qu'on avait sur la consigne, est-ce qu'il faut relancer la consigne ? Vous allez intervenir sur le hashtag Europe 1 et vous serez avec nous sur Europe 1 évidemment, à 8h30 pour ce débat, 6h51.
Europe 1 présent sur tous les continents grâce aux correspondants, la revue de presse internationale.
Les États-Unis, l'Espagne et Israël au programme, à tout de suite.
Vous écoutez Mathieu Béliard, la matinale d'Europe 1 à 6h52, la revue de presse internationale.
Et notre réseau de correspondants sur tous les continents. L'information telle qu'elle est vécue à l'étranger, c'est comme une fenêtre qu'on ouvre sur le monde à 7h10 tous les matins. Xavier Yvon à New York pour Europe 1. Bonjour Xavier.
Hello Mathieu, bonjour à tous.
Alors chez vous, la pandémie est en plein rebond, on en parlait dans le journal, mais les compagnies aériennes remplissent à nouveau les avions.
Oui, United Airlines, par exemple, qui va tripler ses vols le mois prochain, 25 000 trajets supplémentaires, annonce USA Today, mais ça ne représente que la moitié à peine de ce que United proposait il y a un an, détaille le journal. Pour s'en sortir, American Airlines, elle, remplit à nouveau ses avions à capacité maximum. Elle a commencé à le faire hier, raconte l'agence AP. Décision très critiquée. Parmi les trois grandes compagnies aériennes, seule Delta va en fait continuer à limiter le nombre de passagers, explique Newsweek. Bloquer le siège du milieu, c'est de la com, pas une mesure de santé publique, répond le porte-parole de United sur CNBC. Toutes les compagnies exigent que leurs passagers portent un masque, qui n'est pas toujours évident à faire comprendre ici. Alors, Alaska Airlines va distribuer des cartons jaunes aux récalcitrants, raconte le Washington Post. Et comme au foot, ça vaudra un avertissement avant une éventuelle suspension.
Xavier Yvon, merci beaucoup. Henri de la Guérie est en Espagne pour Europe 1. Bonjour Henri.
Bonjour Mathieu.
À la une en Espagne.
Eh bien, on s'inquiète de l'absence des touristes étrangers. Les frontières Schengen ont ouvert il y a 10 jours, mais très peu de vacanciers. Elles sont arrivées en Espagne. Les plages sont désertes, les boutiques sont fermées, les Baléares sont menacées par la pauvreté, titre El Confidencial. Le journal décrit l'inquiétude des commerçants et des hôteliers. Beaucoup sont au bord de la faillite. À Benidorm, au sud de Valence, même constat, raconte à l'Espagnol. Les hôtels de la célèbre station balnéaire sont désespérément vides. Cet été, Benidorm ressemble à un cimetière, décrit un patron de restaurant. Le problème, explique El Mundo, c'est que l'activité aérienne est encore au ralenti. Il y a très peu de vols à destination de l'Espagne et ils sont hors de prix. Au sud de Barcelone, à Salou, des touristes sont bien là, nous apprend El Periodico, mais ce sont de jeunes Français venus en voiture qui, selon le journal, ne portent pas de masque et, je cite, ne respectent aucune distance de sécurité.
Henri de la Guérie en Espagne pour Europe 1. Clotilde Mravko en Israël. Bonjour Clotilde.
Bonjour Mathieu.
Qu'est-ce qu'on lit dans la presse chez vous ?
Ce sont deux petits mois qui font parler dans les journaux israéliens ce matin. Le pays vient de réduire le service militaire obligatoire pour les hommes à 2 ans et demi au lieu de 32 mois auparavant, explique le journal Haaretz. En Israël, toute la société est tournée vers l'armée, passage obligatoire pour les garçons comme pour les filles. Mais, rappelle la chaîne de télévision I24, entre les Arabes israéliens et les Juifs religieux qui ne sont pas soumis à la conscription et ceux qui se font réformer pour raisons médicales, 50% des Israéliens ne finissent pas leur service. L'ancien chef de l'armée, Benny Gantz, aujourd'hui ministre de la Défense, veut donc casser ce modèle du tout militaire, raconte le Jérusalem Post. Il souhaite que chaque citoyen fasse son service obligatoire, mais avec le choix de le faire sous forme de service civil auprès des secours ou même dans la police.
Clotilde Mravko, merci beaucoup. Nous étions en Israël, en Espagne et aux États-Unis. C'était la revue de presse internationale. C'est tous les matins, 7h10 sur Europe 1.
Europe 1. Un nouveau journal à 7h avec Hélène Zélani. La météo de Laurent Cabrol dans un instant. 6h57, Mathieu Bélière sur Europe 1.
Jeudi 2 juillet, bon réveil à toutes et à tous avec la matinale d'Europe 1. Ensemble, vous le savez, on écoute le monde changer. Et ce qui anime les débats à Marseille aujourd'hui, ce ne sont pas tant les municipales, pas tant le professeur Raoult que les fondamentaux. L'Olympique de Marseille, à 7h40 sur Europe 1 ce matin, Christophe Boucher, ancien président du club. L'OM n'est officiellement pas à vendre, voilà ce que dit le propriétaire du club. Mais voilà que Mourad Boudjelal, ancien patron du rugby club de Toulon, un homme d'affaires franco-tunisien et des investisseurs du golf, ont suffi à relancer un véritable feuilleton sur la Canebière. Qu'est-ce que c'est que ce projet ? Et la méthode, pour le moins, cavalière, l'agacement des dirigeants, les informations de Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1, dans le journal de 7h dans quelques instants. De l'écologie à la une, toujours. Politique d'abord, les Républicains qui créent une cellule écolo au sein du groupe parlementaire, c'est dans le journal aussi. Les Verts, symbole d'un renouvellement en politique, le fait politique de Michaël Darmon, c'est à 7h30 tout à l'heure. 8h15, Sonia Mabrouk reçoit le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Et puis sur le terrain, concrètement, comment tendre vers l'objectif zéro déchet au plus vite, sortir du tout emballage, des plastiques à usage unique. Brune Poirson, la secrétaire d'État à l'écologie, convoquait hier des acteurs de la livraison de repas, on en parlait, hein, dès 6h40, nous étions avec la co-directrice de Frichti. Ce débat, il continue avec vous à 8h30. Comment vous, au quotidien, à domicile, au travail, comment vous pouvez agir, tenter de mettre en place une véritable réduction de ces déchets, un meilleur tri peut-être. Écrivez-nous dès maintenant pour témoigner sur le hashtag Europe 1, le débat, mais aussi peut-être des conseils à 8h30 avec Laura Châtel de l'ONG Zero Waste France. Écologie toujours et mobilité douce, comme on dit désormais. Alors que la crise de l'aéronautique est toujours à la une, nous allons reparler d'Airbus et de ses sous-traitants, d'Air France, de l'emploi des intérimaires. Mais mais une petite révolution dans l'automobile. La marque Tesla qui devient la première capitalisation boursière automobile. Les marchés sont-ils absurdes ? Tesla produit 10 fois moins de voitures que Renault. Ou visionnaire ? Le monde bouge. Axel de Tarlé à 7h20 tout à l'heure. Laurent Cabrol est avec nous à 6h59. Ouais. C'est l'heure de la météo.
Le temps bouge aussi. Le temps bouge. Hier, ce fut pour certains d'entre nous une période et un moment difficile à vivre car il y a eu ces orages très violents et puis des incidents qui ont fort heureusement pas duré trop longtemps. Mais aujourd'hui, il y aura encore des orages. Nous aurons encore des risques d'orages importants sur la région Rhône-Alpes dans le courant de l'après-midi. Quelques ondées seulement sur le sud-ouest, le Massif central, la Bourgogne et le Midi-Pyrénées, comme sur la Lorraine et l'Alsace. Sur Paris, voilà, un petit peu de pluie. On va en mettre un petit peu en saupoudre. Allez, Champagne-Ardenne aussi, Val de Loire et région lyonnaise. Et puis sur toutes les plages, on va mettre du soleil. Toc, 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 un beau soleil partout sur toutes les plages de France, car sur la côte, essentiellement sur la côte, il fera beau. Les températures maximales aujourd'hui entre 20 et 34 degrés, 34 à l'Est, 32 à Marseille et 20 degrés à La Rochelle. Et puis ce matin, il fait entre 14 et 23. C'est pas mal, hein, il en fait 17 à Paris. Cet après-midi, il en fera 23 dans la capitale, 23 à Toulouse aussi et à Épinal. Voilà, bah écoutez, passez une bonne journée quand même.
Bah oui, ça, hein, c'est parti pour être une belle journée en tout cas. Merci Laurent Cabrol.